Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
Il est 23h, passé de 3 minutes. L'after est là, jusqu'à minuit.
RMC.
J'essaie de faire mon mieux, d'apporter pire les déficits et donc je suis content.
Au nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Je terminerai en vous disant simplement, sié, et puis c'est tienne.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Là. Avec Thibault Leplay et avec Kevin Diaz qui sont là jusqu'à minuit l'after, messieurs, dames, évidemment, comme tous les soirs. Je vous précise que Manchester United a finalement éclaté Chelsea 4-1.
Belle saison pour Chelsea, hein, vous ne pensez pas?
Oui, c'est. Voilà.
De mal en pis.
Ils n'ont pas beaucoup dépensé, ils ont bien recruté. Franchement, c'est une belle équipe. Belle équipe. Je pense que Malo Gusto va se régaler là-bas.
Oui, c'est possible. Bon bref, voilà, on va pas parler de foot anglais ce soir parce qu'on a plein de choses à dire sur les entraîneurs français, déjà de l'actu du moment, et puis on a choisi également de vous parler ce soir de la nouvelle génération des coachs. C'est un des gros dossiers de la revue de l'After qui est en kiosque. On a bossé dessus, Thibaut notamment, qui a baptisé cette génération la génération cerveau. Il nous expliquera pourquoi. Vous allez même découvrir dans l'heure qui vient qu'il y a même maintenant des coachs de coachs, des mentors de coachs qui existent. Ce sera dans quelques minutes. Mais d'abord, les infos du jour. Qui concerne globalement trois clubs, Paris, Marseille et Rennes. Je vais démarrer par Rennes, parce que là, ça va être vite bouclé. Puisque donc, aujourd'hui, Bruno Genesio a mis fin à tout suspense en confirmant qu'il serait bien l'entraîneur de Rennes la saison prochaine. Il y avait eu des doutes. Genesio, vraisemblablement, a douté un moment, sachant pas lui-même s'il avait envie de continuer. Il l'a dit aujourd'hui, il sera là la saison prochaine.
On n'en doutait pas.
Un peu quand même. Parce qu'il y a un moment, là, février-mars, c'était un peu tendu.
Quand même rare qu'un entraîneur qui est sous contrat décide d'arrêter.
Oui.
Et fasse une croix sur son contrat, tu veux dire?
Oui.
Surtout donc, fasse une croix sur le pognon, c'est ce que tu veux dire?
Au vu des contrats. Non, mais et puis c'est des passionnés quand même.
Non, je pense qu'il a eu un coup de moins bien quand même. Il a dû quand même se poser la question. Et puis après, la raison a repris le dessus.
Voilà. Mais c'est aussi peut-être une possibilité de mettre un peu la pression sur le club qui a connu quand même pas mal de changements sur les dernières saisons, qui a trouvé là un peu de stabilité, même si les résultats sont pas forcément à la hauteur cette saison. Mais je pense quand même que quand t'as un entraîneur et quand t'es un entraîneur sous contrat dans un des plus beaux clubs français, avec cet investisseur et cet actionnaire derrière,
et même si
pas
bien,
sûr que tu
mieux pour le Stade Rennais, il faut de la stabilité dans ce poste là, oui. Surtout que Bruno Genesio est un entraîneur de qualité. Enfin, il y a eu des matchs magnifiques.
Ça fait partie de ces entraîneurs, on va parler, voilà. qui ont progressé quand même.
Oui, bien sûr.
Ils ont évolué au moins.
Bien sûr.
Bon, voilà pour Rennes. Passons maintenant à Marseille. Parce que vous savez qu'il y avait pas mal de rumeurs et de doutes à l'OM concernant Tudor. La Juve lui-même disait c'est vrai, la Juve, bon, quand même, c'est la Juve, ça a été mon club et tout. Bon, sous-entendu, c'est au-dessus de Marseille. Alors, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais aujourd'hui, Tudor a été très clair sur la suite. Il dit, je suis très bien à Marseille. On va même pouvoir l'écouter. D'ailleurs, il est dithyrambique sur la relation avec ses dirigeants, notamment Igor Tudor. C'est parti.
Non, c'est la demande que...
Ce sont des questions internes que l'on verra avec les dirigeants. On aura probablement un échange à ce propos au cours de la semaine prochaine. Après, je pense vraiment qu'on a un rapport sincère, une belle relation avec eux. Je pense que je n'ai jamais eu ce rapport par le passé, autant de partage dans mes anciens clubs. J'ai toujours un soutien à 100% sur ma gestion parce qu'ils croient en ce que je fais et ça, c'est quelque chose de rare. J'ai une très bonne relation avec ces dirigeants de haut niveau et on verra peut-être la semaine prochaine.
Ci metteremo prossima settimana insieme e parleremo.
Voilà, on verra pour
vous entendu, prolonger. J'aimerais bien être prolongé.
Voilà, et je veux rester.
Voilà, je veux rester. Non, mais on va trouver un accord.
Il faut quand même savoir un truc avec Igor Tudor. Alors après, on n'aime pas, mais c'est dans son intérêt aussi de rester enfin 2 ans dans un club.
Ah, 2 ans, attention, il l'a fait à Ajax Split lors de sa toute première expérience.
C'était son club.
Où il a fait deux ans.
C'était son club, peut-être.
Mais sinon, après, c'est vrai qu'il n'est jamais resté deux ans nulle part.
Il était à la maison et il y a un moment, les interrogations qu'on a, nous, consultants, journalistes, analystes du football ou des supporters, t'inquiète pas que les mêmes interrogations reviennent dans les réflexions des clubs pour recruter un entraîneur. Il y a un moment, tu ne recrutes pas un entraîneur qui fait chaque fois un an. Non, il y a un moment, là, il est quand même dans un cadre. Un des plus grands clubs français, pour certains le plus grand club français, le plus grand public, avec un stade incroyable, plus de 60 000 chaque semaine, un salaire qui doit être quand même assez intéressant, un effectif qui est quand même cohérent et qui va pouvoir être complété, une possible Ligue des Champions, au minimum une Europa League, franchement, t'es entraîneur, t'as pas eu stabilité sur les 7 dernières saisons, je sais pas, à moins d'aller à la Juve, mais je pense qu'avant il y a quand même un certain ZZ qui sera candidat, je pense quand même que pour Igor Tudor, c'est tout bénef s'il arrivait enfin à apporter de la continuité à son travail.
Après, il y a quand même une inconnue, qui est la capacité de ces joueurs à encaisser une deuxième année de Tudor.
Mais pour lui aussi, ça va être un test.
Oui, mais comme c'est pas lui qui court, c'est physiquement c'est moins difficile pour lui. Non, c'est
sinon, points. Tu renouvelles.
Mais plus pour les joueurs, je sais pas dans quelle mesure. Klos a dit des choses intéressantes d'ailleurs dans cette conf quand il parle du management de Tudor. Il dit quand même il a des mots. Son caractère est pas fait de souplesse. Il faut s'y plier. Certains s'y plient, d'autres pas. On est quand même dans un management très vertical, quasi militaire. C'est peut-être ce dont a besoin le club. Peut-être le club a besoin de discipline. Mais ça se fait pas sans casse, ça. Tu peux pas demander à des joueurs d'être au maximum tout le temps dans un registre purement comme ça vertical, où tu t'y plies ou tu t'y plies pas.
Si
en plus tu dois jouer tous les trois jours et que t'as une grosse pression.
Je te pose toujours la même question. Le plus grand entraîneur du monde, est-ce qu'il a un management souple?
Alors tu fais allusion à Pep Guardiola.
Voilà. Est-ce qu'il a un management souple?
J'ai entendu très peu de joueurs dire que Pep Guardiola était un
sur l'exigence
un militaire ou qu'il exigeait
sur l'exigence du quotidien, que ce soit trois matchs par semaine.
Je te parle plus de style de jeu en fait. Parce que je reviens toujours à cette idée-là, c'est que c'est un style de jeu qui est fait de contact, fait de beaucoup de duels.
Oui, mais c'est là où on sera pas du tout d'accord. On n'est pas du tout d'accord là-dessus. Je sais pas quel match de l'OM tu regardes, mais si tu crois que l'OM c'est Glasgow des années 80, honnêtement, je sais pas de quoi tu parles quand tu parles de contact avec l'OM. L'OM c'est le même jeu que Leipzig, c'est le même jeu
de duels défensifs, le fameux indicateur de passe de pressing, tu regardes à chaque fois c'est le premier, tu regardes sur tous les indicateurs de duels, mais c'est l'OM qui est premier. Mais après, on peut le discuter
pour gagner des matchs, il faut gagner des duels. Tu crois que Lens gagne pas les duels? Lens ne gagne pas les duels.
C'est pas forcément le seul indicateur. Non.
Mais l'indicateur du jeu de l'OM, c'est pas de gagner des duels.
Non, mais c'est sur cet indicateur-là en particulier qu'il a été recruté. Sur sa capacité à générer un nombre de duels et ensuite à les gagner. Le recrutement a été fait sur ces bases-là.
Donc, quand tu regardes
le critère de recrutement était celui-là,
l'équipe de l'OM,
on peut l'évaluer sur ce critère-là. Non, effectivement, là-dessus, c'est réussi.
L'équipe de l'OM, sur les 20 équipes que compte la Ligue 1, c'est une des trois équipes les plus agréables à regarder à jouer au foot. C'est pas le kick and rush ou le football anglais des années 90.
Mais il n'y a plus personne qui joue comme ça.
Mais quand tu parles de duel, je pense que n'importe quel entraîneur veut que son équipe gagne tous les duels. Pas 80%, pas 90%. Chaque entraîneur, que ce soit de district à Ligue des Champions, finaliste,
vouloir gagner des duels, et autre chose,
il va te dire que je veux gagner tous les duels.
Que ton modèle de jeu, ce soit gagner des duels.
Mais son modèle de jeu, c'est pas gagner des duels. Son modèle de jeu, c'est agresser l'adversaire.
C'est la défense individuelle. Le principe de la défense individuelle, c'est de gagner des duels. Si tu gagnes pas ton duel, ton équipe est sous l'eau.
Mais Bielsa, le football qu'il veut, c'est pas gagner des duels.
Mais je te dis pas que je suis d'accord avec cette idée-là. Je te dis pas que Bielsa, la différence avec Bielsa, c'est
qui tu veux.
La différence avec Bielsa, parce que tu fais le comparatif avec Tudor, et c'est important, je pense, de le dire.
C'est comme au hockey sur glace quand il y a un petit duel comme ça, où à un moment, on se fait la fin, quoi. Puis là, ça s'arrête. Pomme.
Boum. Okay. Ouais. Et il y a la musique. Un autre jour, on en parle, mais il y a une différence avec, la différence avec Bielsa, c'est que le discours de Bielsa et tout le paradigme, toute la philosophie de jeu de Bielsa, elle va un peu plus loin dans le développement du joueur, dans une certaine manière de concevoir le football, le rapport au public. Enfin, les gens vont trouver que c'est de la com, que c'est pas intéressant, peut-être. Mais le football de Bielsa est intégré à ça.
T'as déjà vu les tours d'honneur que demande Tudor à ses joueurs? T'as fait attention.
Oui, mais je te parle du discours. Le discours de Tudor, c'est pas du tout le discours de Bielsa.
Mais après, c'est chaque personnalité. Mais moi, je pense que
le football, chaque personnalité, chacun est libre d'en préférer une plutôt que l'autre.
Le football que propose Tudor, est beaucoup plus semblable à celui de Bielsa.
Bah, du Bielsa de Marseille, parce que le Bielsa de Lille, c'est pas le même.
Ouais, le Bielsa de Marseille ou de Lille, c'est un gars qui veut presser très haut, qui fait de la défense individuelle, qui veut gagner des duels, qui veut que le mec il demi-mouille son maillot pour le club, pour le gars voilà. Qui va se lever à 6h du matin, etc.
Merci Toto.
Voilà, c'est fini.
Je sais pas pourquoi tu le plan n'aime pas Igor Tudor.
Je le dis plein de fois, je peux repartir
pour faire un duel.
Vous avez dit que c'était voilà, fini, voilà. C'est quand même incroyable.
Bah oui, mais bon, on doit quand même perpétuer la tradition de Daniel Riolo qui t'écoute pas quand même.
Tiens, j'ai Gabriel au 32-16 qui veut pas du tout parler de l'OM. Salut Gabriel.
Ah bah bienvenue.
J'ai envie de dire Nagalef. Ah. Ça veut dire bonsoir en Wolof.
Et oui, parce que toi, tu as vécu en Gambie.
Absolument.
Et donc là, t'as regardé France-Gambie ce soir et t'as halluciné en fait.
Ben oui, parce qu'en fait, moi, j'ai fait un petit duel à distance avec tous mes camarades et amis et associés gambiens. Évidemment, j'ai parié un petit billet sur la France. Bon, ben voilà quoi. Donc,
on peut te demander ce que tu faisais en Gambie.
Alors, je dirigeais un consortium et dans ce consortium, on avait deux hôtels, 5 étoiles.
D'accord.
Et donc voilà. Et donc, j'employais à l'époque environ 1500 personnes.
Ah ouais.
Que des Gambiens, majoritairement.
Et donc, c'est quoi voilà, c'est... Il y a du tourisme. Enfin, moi, je suis passé une fois en Gambie, dans la capitale, Banjul.
Tu connais alors, donc.
Oui, je suis allé. Ouais.
Gilbert connaît tout.
Non, mais c'est un des pays, c'est un des pays les plus pauvres d'Afrique, hein, la Gambie. Attention, hein,
c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. Et
pays très dur. Il y a eu un dictateur, Yahya Jammé, terrible.
Bon.
Mais donc, attends, ça veut dire qu'il y a du tourisme en Gambie?
Ouais, il y a du tourisme en Gambie. Il faut savoir que la Gambie, c'est le premier pays anglophone quand tu quittes l'Angleterre. Donc, quand tu quittes l'Angleterre et que tu descends dans le sud, oui. Le premier pays anglophone que tu rencontres, c'est la Gambie. Et donc, c'est fascinant pour les auditeurs qui connaissent pas bien la géographie en Afrique de l'Ouest. C'est quand même un pays qui a été dessiné de la manière suivante. Il y a un bateau de la marine anglaise qui a remonté le fleuve Gambie, qui a tiré des boulets à gauche et à droite. Et à partir de là, ils ont déterminé ce que c'était la Gambie. Et tout autour, c'était le Sénégal et donc les colonies françaises.
Voilà, c'est un pays enclavé totalement dans le Sénégal.
Une dinguerie. Il faut imaginer que nous, la France, c'est comme si on avait joué un match de foot contre, je sais pas, l'équipe régionale de Nice, quoi.
La sélection, tu veux dire.
Ouais, la sélection. Oui. Alors le foot là-bas. Alors l'équipe senior, c'est pas mal développé ces derniers temps. Ils ont notamment participé à une CAN. Mais là, on parle des moins de 20 ans qui ont battu la France. Donc voilà. Et donc, je pense qu'à l'échelle de la Gambie et du foot gambien, même si l'équipe de France est en, on va dire, il y a plein de joueurs qui sont pas là, ça reste un exploit énorme en fait. Pour eux.
Ah mais c'est un exploit d'autant plus retentissant qu'il faut savoir que majoritairement les gamins qui jouent en Gambie jouent pieds nus, sans chaussures. Ils jouent pas sur des stades parce que sécheresse oblige, il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de terrain. Et donc nous on a sponsorisé, enfin moi j'ai sponsorisé à titre personnel des équipes de jeunes et des équipes de foot en Gambie. Et c'était sur la plage. Les tournois tous étaient sur la plage, dans le sable, voilà, c'était que ça quoi. Un gamin qui joue au foot en Gambie, c'est un ballon pour 50. Et un short. Il y a pas de t-shirt, il y a pas de chaussures. Voilà. C'est ça le foot en Gambie.
Voilà. Et ça bat la France 2-1 à la Coupe du Monde
de Fleuron de la formation française.
Donc si ça suffit pas à se remettre en cause sur notre modèle à nous.
En effet.
Je comprends que là.
Il faut se remettre en cause et puis surtout il faut dire bravo aux Gambiens.
Ouais.
Parce que quand tu vois d'où ils partent, effectivement, déjà se qualifier. Parce que bon, en Afrique, il y a quand même des sélections très organisées. Bon, le Sénégal en fait partie. Ils y sont d'ailleurs. Il y a le Nigeria qui est qualifié également chez les U20 là. Mais il y aurait pu y avoir l'Égypte.
Non, mais c'est pour ça que
tu es quand même dans un groupe avec la Gambie, la Corée du Sud, le Honduras. C'était dernier du groupe, quoi.
Ouais. Normalement, si tu paries là, tu mets un pied quand même sur la France, mais bon.
Là, je veux bien être gentil, mais bon.
En effet.
Ça fait beaucoup là.
Est-ce que je peux vous raconter une anecdote et après je vous.
Bien sûr, vas-y.
Quand j'arrive en Gambie, donc français, je fais venir ma famille, je fais venir mon fils qui aime le foot, et donc on arrive avec un ballon qui était dégonflé. Et donc nous, on regarde le ballon dégonflé en se disant mais merde, comment on va faire? On n'a pas cette petite aiguille, c'est qui rentre à l'intérieur du ballon pour gonfler. Voilà. Donc je vais voir le directeur des services techniques de l'hôtel et je dis ouais, j'ai un problème, je sais pas comment gonfler le ballon de mon gamin. Et là, histoire vraie, il se tourne vers moi, il ramasse par terre un chewing-gum. Il prend dans sa poche, dans sa veste, un bic. Il enlève la partie qui sert à écrire. Il garde le tube.
Mmh.
Il colle le chewing-gum. Il met le bic dans le chewing-gum. Il prend un vieux compresseur dont toi, tu te dis, si je m'approche et que ça explose, tout le monde meurt. il met un petit coup de compresseur, il gonfle le ballon, il reprend le chewing-gum, il le remet par terre, il reprend le bic, il remet la partie qui sert à écrire dedans, il le remet dans sa poche et il me redonne le ballon. African miracle, comme on dit là-bas. Voilà. Et ça, ça a battu la France.
Voilà, ouais. Magnifique. Ouais. Merci Gabriel pour ce témoignage.
Salut Gabriel. Moi.
À bientôt. Et si jamais la Gambie va loin, on se rappelle. Hein.
Ah oui, avec grand plaisir. Alors,
ça marche. Salut Gabriel, à bientôt. Voilà, Gabriel qui a vécu en Gambie. Je rappelle que dans la Coupe du Monde U20 ce soir, la Gambie a battu la France 2-1. Dans un instant, info cette fois sur le futur entraîneur du PSG. Et ensuite, on parlera de cette nouvelle génération de coachs. Là, les Le Bris, Aize, Digard, Steele et tous les compagnies, comme dirait Frédéric Antonetti. À tout de suite.